France Musique. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Jacques Loussier, c'était un surdoué de la musique qui s'emparait de tous les styles, de tous les genres, avec le même talent. Il nous a quittés malheureusement le 5 mars dernier, mais j'avais eu la joie de le recevoir, Jacques Loussier, dans Étonnez-moi Benoît, c'était le 23 octobre 2004. Jacques Loussier.
Bonjour.
Bonjour et merci d'abord de me ramener dans ma petite enfance, ma toute petite enfance, les années 60 avec cette musique de Thierry Lafronde que tout le monde connaît sans savoir forcément que c'est de vous. Alors simplement, anecdotiquement d'abord, ça évoque des souvenirs précis pour vous, Thierry Lafronde ?
Ah oui, complètement, parce que d'abord c'était la première fois qu'on avait un feuilleton aussi long chez Tel France. C'était tous les débuts. Le premier feuilleton que j'ai fait, c'était Rocambole, qui était aussi une série que faisait. C'était le début des séries télévision. Et celui-là, c'était vraiment celui qui a été. Je crois qu'il y avait 125 épisodes d'une demi-heure.
Ouais.
Et c'était tous les dimanches matins, ou je ne sais pas, je ne me souviens plus très bien quand ça passait. Mais je sais une chose, c'est que ça a été un énorme succès.
Et le thème, vous l'avez trouvé du premier coup ? Alors vous l'avez testé, échangé, vous en avez discuté avec les réalisateurs, ça a été long,
laborieux. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je travaillais pour la firme Tel France, le film, et j'étais avec un ami qui travaillait dans cette firme-là, qui s'appelle Pierre Houdin, et qui était un monteur au départ, mais qui ensuite était s'occupait de tout. Et c'est surtout avec lui et le réalisateur qu'on choisissait les thèmes.
Ah oui.
Alors pour la série Thierry Lafronde, j'aurais présenté trois ou quatre thèmes différents que j'ai joué au piano. Je me souviens très bien, à l'époque, j'habitais Poigny-la-Forêt, pour vous dire, ça fait presque 40 et quelques années. Et dans les trois ou quatre thèmes que j'ai présentés, il y en a un qui a tout de suite retenu leur attention. qui me plaisait beaucoup à moi aussi par rapport aux autres. On a décidé que ce serait le thème du feuilleton.
Et voilà, il a été trouvé.
Et il a été trouvé comme ça.
Alors évidemment, on vous connaît plus, même si tout le monde connaît ce thème-là, notamment pour la fameuse série Playback, dont on reparlera tout à l'heure. Mais en fait, c'est extraordinaire, parce qu'entre Playback et Thierry Lafronde, il n'y a pas beaucoup de rapport, et musicalement, à première vue. Et puis vous avez été aussi musicien dans le monde du musical, et notamment accompagnateur de grandes vedettes. Et puis vous êtes aussi compositeur, toujours un peu aux limites de la musique classique et du jazz. Alors quel est le lien entre tout ça, Jacques Lussier, pour vous?
Bah, le lien, c'est moi, tout simplement, oui. Parce que je suis à la fois un pianiste qui a commencé par travailler le piano classique au Conservatoire de Paris dans la classe d'Ivnat. Et puis, en même temps, j'ai commencé par faire ce premier disque en trio qui a eu un succès phénoménal, qui était une grosse surprise, et c'était formidable. Et j'ai passé mon temps à faire des musiques de films quand je revenais de tournées qui étaient à l'époque fort nombreuses, puisque je tournais environ 150 concerts par an. Vous imaginez, ça fait presque 200 jours en dehors de la France, de chez moi. Et donc le temps qui me restait, les 163 jours qui me restaient, je les dédicaçais à travailler des compositions, surtout dans les musiques de films, et surtout dans les séries télévisées de Tel France Film à l'époque. Je crois que j'ai dû en faire une trentaine ou une quarantaine de choses comme ça.
Alors dans cette activité tellement variée, ou pour la définir, le mot variété, vous l'accepteriez ?
Le mot en lui-même me dérange pas. C'est de toute façon, varié, c'est mieux que variété. Variété, oui. C'est une petite connotation un petit peu bas de gamme. C'est dommage, parce qu'il y a dans la variété des choses fort intéressantes, des chanteurs qui sont extraordinaires, des mélodies, des thèmes qui sont très beaux. Dans la musique, il n'y a que la bonne et la mauvaise. Hein, on est d'accord là-dessus. C'est pas la variété, il y en a de la bonne et puis il y en a de la mauvaise.
On est d'accord. Alors on va revenir à ce parcours si riche et si divers et à votre apprentissage musical qui ne passe pas seulement par les couleurs musicales classiques. Si vous aimez la rumba, Jacques Lussier.
J'adore.
Vous adorez. Mais en tout cas, vous avez connu très bien Cuba. Hein.
Bien sûr, j'y ai vécu un peu plus d'un an.
À votre tout début de musicien.
Ah, tout à fait. J'étais encore au Conservatoire de Paris. Et comme je travaillais la nuit pour pouvoir vivre le jour et pouvoir travailler et jouer du piano dans la journée, je gagnais un peu ma vie, c'était absolument nécessaire. Et dans le club où je travaillais, qui s'appelait à l'époque le Monseigneur de Paris, dans Paris, des Cubains sont venus un soir et, émerveillés par l'ambiance, ont demandé si on voulait aller faire la même chose dans un restaurant qu'ils ont organisé et monté à La Havane, à Cuba. Alors moi j'avais 19 ans, vous pensez bien que tout de suite j'ai
c'était
pensé...
C'était les années 50, enfin
fin c'était des exactement 50, en 53, en 53, et j'ai demandé un congé au conservatoire, je suis parti un an avec les musiciens Zigan avec lesquels je jouais du piano.
C'est ça le plus étrange, c'est que vous êtes allé à Cuba faire de la musique Zigan.
Exactement, mais c'est très étrange, dans ma vie il y a des choses comme ça, très étranges, et pourtant c'est la vérité, puisque bon, c'était un orchestre qui faisait... la même chose que Monseigneur de Paris, c'est-à-dire les tables, les musiciens, toutes les chansons russes, hongroises, roumaines, tout le folklore. C'était formidable, c'était très amusant.
Il faut dire que ce n'était pas d'ailleurs encore le Cuba de Fidel Castro, c'était l'époque de Batista.
Batista. C'était... la vie était quand même très agréable, même pour les pauvres gens, parce qu'il y avait le soleil, ils étaient joyeux, il ne leur fallait pas grand-chose. Ils ne demandaient pas autre chose que la tranquillité. Ils étaient tranquilles et, mon Dieu, il y avait une très bonne ambiance à Cuba à cette époque-là. Je n'y suis pas retourné depuis, donc je ne peux pas juger de la différence.
Mais quand vous êtes entré en piano chez Yves Nat, vous pouviez imaginer que vous alliez faire de la musique tzigane dans des restaurants, ou vous aviez vraiment l'idée à ce moment-là de devenir un pianiste classique formaté, si je puis dire?
Tout à fait. J'avais l'intention de devenir un pianiste classique, absolument. Ouais. Seulement, la vie en a un peu décidé autrement, dans le sens où j'avais besoin de gagner ma vie, parce que j'avais fait une équation extrêmement simple. Tous les ans, il y avait 20 premiers prix de Paris du conservatoire, donc c'est 20 places qui étaient libres pour l'année suivante pour ceux qui voulaient y rentrer. Mais tous ces 20 premiers prix, une fois qu'ils sortaient, ils n'avaient aucune attache pour rien. Ils étaient laissés tranquilles, on leur donnait un beau diplôme et plus personne ne s'occupait d'eux. Ouais. Et j'ai réalisé qu'au bout de 10 ans, ça ferait 200 personnes qui seraient sur le marché du piano. Et sans avoir d'aucune possibilité de louer une salle ou de faire venir des critiques, sur la base de quoi? C'est très compliqué, c'est impossible. Peut-être des personnes comme Haïti qui ont réussi parce qu'ils avaient les moyens aussi à ce moment-là.
Et c'est comme ça que, donc, à votre retour de Cuba, finalement, vous êtes approché du monde du music-hall, pour commencer, et notamment un certain nombre de grands chanteurs de l'époque, comme Aznavour, comme Catherine Sauvage, et d'autres, dont vous êtes devenu l'accompagnateur.
Oui, c'est-à-dire que quand je suis rentré de Cuba, la première chose que j'ai trouvée comme travail, disons, c'était une proposition d'accompagner Catherine Sauvage.
Ah oui.
Et j'ai été la voir, je me souviens, c'était absolument extraordinaire. On a tout de suite pigé l'un et l'autre, on s'est compris, ça a été formidable. Et jusqu'à sa mort, je l'ai accompagné presque...
Ah oui, régulièrement,
même après votre succès. Mais oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, c'était une période très riche. Aznavour est venu beaucoup plus tard, c'est venu après mon service militaire en Algérie, 28 mois. Quand je suis rentré, là, j'ai connu Aznavour, à Alger, d'ailleurs. Et il m'avait demandé si je connaissais ses chansons. J'ai joué une chanson de Beko. Très, très bien. Il était très content, quand même. Il m'a dit, ça va, tu joues bien du piano, on peut venir avec moi. Et en 59, j'ai commencé à travailler avec Aznavour. Pendant 2 ans, j'ai été le patron du trio basse, batterie, piano avec Charles. Et ça a été une période très, très agréable, parce que Charles est vraiment un personnage remarquable, beaucoup de qualité. Et j'ai appris beaucoup avec lui, et c'était très intéressant. Mais ce n'est qu'en 59 que j'ai commencé Charles Aznavour, mais j'avais déjà accompagné Catherine Sauvage et Suzy Delair également.
Et Suzy Delair, notre chère Suzy Delair.
Notre chère Suzy Delair. Et voilà... Et c'est en 59 que j'ai fait mon retour d'armée. Je suis arrivé le 1er mai, le disque playback a été enregistré le 28 ou le 29.
Alors on va y venir dans un instant, mais je vous propose un petit retour à Catherine Sauvage. C'est une chanson très connue de Kurt Weill, Surabaya Johnny. Je crois que c'est vous qui êtes au piano avec Catherine Sauvage.
Ah oui.
J'étais jeune, 17 ans, une monde. Je t'ai vu t'arriver de Birmanie. Tu disais qu'il fallait que je te suive. Tu disais, t'auras pas de soucis. Je t'ai demandé ce que tu faisais dans la vie. Tu m'as dit aussi vrai que je suis là. Je travaille quelque part au chemin de fer et je n'ai rien à fiche sur la mer. Tu parlais trop, Johnny. Tout était faux, Johnny. Dès le premier mot, Johnny, tu m'as trompé. Est-ce que je te hais, Johnny, quand t'es là qui ricane? Johnny, tu retires cette pipe de ta grande gueule. Ordure. Sourabaya, Johnny. Pourquoi t'es si méchant? Sourabaya, Johnny. Bon Dieu. Et moi qui t'aime tellement. Sourabaya, Johnny, pourquoi je souffre autant? Tu n'as pas de cœur, Johnny, et moi je t'aime tellement. Il y avait 7 dimanches par semaine, au début quand je te connaissais pas. Mais au bout de 15 jours à peine, il n'y a plus rien qui te plaisait en moi. Qu'il est long le chemin jusqu'au Punjab, de la source du fleuve à la mer. J'ose même plus me regarder dans une glace. J'ai déjà l'air d'une vieille rombière. Il te fallait pas d'amour, Johnny. Il te fallait du fric, Johnny. Moi, bonne idiote, Johnny. Je ne voyais plus que ta bouche. Tu as tout exigé, Johnny, et j'en ai remis. Johnny, tu retires cette pipe de ta grande gueule. Ordure. Sourabaya, Johnny, pourquoi t'es si méchant? Sourabaya, Johnny, bon Dieu, mais moi je t'aime tellement. Sourabaya, Johnny, pourquoi je souffre autant? Tu n'as pas de cœur, Johnny, et moi je t'aime. J'ai jamais bien cherché au juste où t'avais pu trouver ce nom-là. Mais du haut jusqu'en bas de la côte, y avait pas de client plus connu que toi. Un beau jour dans un lit à 100 balles, j'entendrai le tonnerre de la mer. Et voilà que tu t'en vas sans rien dire, ton navire est à l'ancre en bas. Tu n'as pas de cœur, Johnny, t'es un salaud, Johnny. Voilà que tu pars, Johnny, sans dire pourquoi. Mais moi je t'aime, Johnny, comme au premier jour. Johnny, tu la retires, cette pipe de ta grande gueule. Oh, Dieu. Sourabaya, Johnny. Mais pourquoi t'es si méchant? Sourabaya, Johnny. Bon Dieu. Mais moi, je t'aime tellement. Sourabaya, Johnny, pourquoi je souffre tant? Tu n'as pas de cœur, Johnny, et moi je t'aime tellement. Johnny!
C'était en 1962 et vous accompagniez donc Jacques Lussier, Catherine Sauvage dans cette chanson de Kurt Weill.
Ah oui, Catherine, c'est un souvenir merveilleux, c'était une femme extraordinaire. J'ai une petite anecdote qui peut vous faire sourire. Je me souviens, c'était tout au début, dans les 15 premiers jours que j'avais connu Catherine, on travaillait rue Ordener chez elle au piano les nouvelles chansons parce qu'il y avait une tournée avec Brassens qui était prévue dans 15 jours. Donc après 15 jours, on part en tournée. Je me souviens, le premier jour, c'était Saint-Étienne. On arrive en voiture à Saint-Étienne. Alors, ça y est, bon, c'était la vedette anglaise, donc elle passait avant l'entracte. Elle me dit, bon, et les partitions? Ben, je dis, les partitions, tu les as prises? Non, mais les partitions, je ne les ai pas, c'est toi. Mais non, mais oui, mais bon, on est parti, il n'y avait plus de partitions. Et donc, j'avais un par cœur frais de 15 jours, et on a fait le... Sans partition, j'ai suivi au pif. Ce que j'ai pu me souvenir de la musique que j'avais lue, elle chantait une dizaine de chansons quand même.
Mais ça rejoint ce que m'a dit justement Suzy Delair un jour où on parlait de vous, que que vous êtes finalement un accompagnateur idéal, paraît-il, parce que vous savez suivre, vous êtes vraiment tout entier concentré sur la voix, l'expression de l'artiste que vous accompagnez.
Vous savez, en fait, j'essaye de bien faire ce que je fais à chaque fois, si c'est de l'orchestration, si c'est de la direction d'orchestre, si c'est du trio, si c'est de la composition, si c'est de l'accompagnement. Il n'y a pas de choses idiotes. Accompagner, c'est très intéressant, on développe d'autres choses. Ouais.
Un autre personnage que j'aurais aimé qu'on évoque, alors on s'éloigne un petit peu de la chanson là, mais c'est un personnage dont on a souvent parlé dans cette émission, plutôt à propos d'opérette d'ailleurs, qui a joué un rôle à ce moment-là dans votre vie, c'est Max Derieux.
Ah oui.
Vous pouvez nous rappeler un peu qui était Max Derieux?
Max Derieux était en fait directeur artistique dans la maison Deka, Deka France. Oui. Et il s'occupait, en réalité, il s'occupait beaucoup d'opérettes, beaucoup de choses comme ça aussi. Ouais. Et moi, il me connaissait par Alger aussi, la même chose. Il venait très souvent chanter à Alger. Et moi, les trois derniers mois de mon service, je les ai passés à Alger, dans la radio-télévision. Je faisais beaucoup d'émissions. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Comme pianiste, tout simplement. Et même comme compositeur, j'ai fait une petite musique pour je ne sais plus quoi. Et puis Max Derieux était là, et c'est lui en fait qui m'a présenté à Paris, à l'aéropage de Deka. Et c'est au cours de ce rendez-vous que j'avais rue Beaujon à l'époque, c'est là qu'on a décidé de faire playback.
Et avec lui en fait.
Avec lui. C'est lui qui m'a permis de présenter mes improvisations sur Bach à l'occasion de ce rendez-vous que j'avais avec la maison. Et c'est comme ça que ça a démarré.
En fait, à l'origine d'ailleurs de Playback, il y avait eu un côté un petit peu blague d'étudiant en musique, je crois.
C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, avec la musique de Bach, eu un rapport très, très particulier. Mm-hmm. Je trouve cette musique extraordinaire, je l'ai tout de suite aimée, mais aimée à la folie, c'est-à-dire que je rejouais sans arrêt les mêmes morceaux. Et c'est petit à petit que j'ai eu l'envie de jouer avec, de m'amuser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de prendre le thème, de rajouter une note, de changer l'harmonie, de faire une improvisation, de revenir sur le thème Bach après. Et ça, je faisais ça au conservatoire, à la cantine à midi, on se retrouvait, il y avait un piano, et tous les pianistes, les gens du conservatoire disaient « Allez, Lucier, joue-nous ton petit Bach », tout ça. Alors je jouais ça, tout le monde rigolait, on était très très heureux. Ça faisait... Et je jouais un petit peu avec des improvisations dans le style jazz, puisque le jazz à l'époque, c'était en 50, il était tout neuf, il commençait à
le jazz sortir, moderne,
le
tout
jazz
cas,
moderne pour l'époque. Mais donc c'est un peu ça, quoi. Donc Bach, c'était une espèce de... Une réaction viscérale, probablement, que j'ai avec cette musique qui m'inspire justement ces improvisations.
On va écouter un des nombreux enregistrements que vous avez fait autour de Bach. Celui-là, il date de 1993 parce que vous avez voulu les refaire des années après. Oui. On peut rappeler qu'à l'origine, donc, c'était avec Pierre Michelot et Christian Garros, deux grands musiciens de jazz de cette époque, fin des années 50. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu les refaire en 93, alors, ces playbacks?
Parce que tout simplement, j'avais beaucoup évolué personnellement dans mon style d'improvisation. Et que les improvisations que j'ai écoutées après 10 ou 15 ans des premiers disques me semblaient ne plus correspondre à ce que je souhaitais. Et j'ai voulu refaire tous ces disques. Et c'est ce que j'ai fait en 93. J'ai refait presque tous les titres que j'avais de Bach avec ça.
Et là, donc, en compagnie de deux autres musiciens qu'on va écouter tout de suite, c'est Vincent Charbonnier
à la basse,
à la contrebasse, et
André Arpineau à la batterie.
Thank you.
le final du concerto italien, donc dans la version de 1993 avec Jacques Loussier et son trio. La formule du trio, elle s'est imposée, je dirais, Jacques Loussier, pour ses playbacks. Finalement, vous avez toujours joué en trio, quoi.
C'est-à-dire que lorsqu'on m'a proposé de faire le disque sur la base des improvisations que j'avais jouées le jour de ce fameux rendez-vous à Paris avec la Maison Bécquin, on m'a dit on prend des dates d'enregistrement. Alors j'ai dit oui, dans combien de temps? Combien de temps il vous faut pour faire les arrangements? Je sais pas, une dizaine de jours. Ouais. Alors dans 15 jours, on prend telle date, telle date, telle date. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? D'un orchestre, vous avez besoin de... Et alors j'étais là, je réfléchissais, j'ai dit non, je prends pas d'orchestre. Parce que, comme c'est quand même assez particulier, c'est pas que je ne fasse pas confiance aux musiciens pour faire des très belles choses, mais c'était très personnel, et j'ai voulu simplement prendre une basse et une batterie pour accentuer le côté swing et jazz que je cherchais à produire avec Bach, et j'étais plus tranquille d'être tout seul, de façon à faire les changements immédiats, alors qu'avec les musiciens, j'aurais alourdi les séances et j'aurais pas obtenu ce que je cherchais.
Les playbacks d'origine, ils ont produit beaucoup de réactions. Vous pourriez nous dire, dans le genre extrême, ceux qu'on le plus aimé ou qu'on le plus détesté, aussi bien chez les classiques que chez les musiciens de jazz?
En général, les musiciens classiques adorent parce que c'est tout ce qu'ils aimeraient faire, qu'ils ne peuvent pas faire du fait qu'ils ne font pas d'improvisation. C'est très rare. Les musiciens qui...
Vous avez vu des grands interprètes de Bach qui ont trouvé que c'était bien, quoi?
Glenn Gould a dit que c'était la manière de jouer Bach.
Ah oui, carrément.
Il l'a dit, ça a été écrit dans les journaux américains. Ça me suffit, moi.
Oui, c'est pas mal.
J'ai pas besoin d'autre chose. Je suis très content comme ça.
Et c'était plus difficile du côté du jazz.
Alors là, c'est plus difficile. Et je le comprends, parce que le jazzman attend une excitation unique dans le même sens. Tandis que dans playback, c'est plus organisé. Mm-hmm. Il y a du Bach, d'un seul coup, on part sur quelque chose, mais on ne finit pas sur cette chose-là, on revient sur Bach, il y a un canevas qui n'est pas du tout le même que dans la musique de jazz. La musique de jazz, vous faites des improvisations sur un thème, les standards, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est de l'imagination sur l'improvisation. Dans playback, c'est plus construit. Mm-hmm. Il y a plus une recherche de volonté de déterminer.
Vous dites vous-même que vous n'êtes pas un improvisateur né, d'ailleurs.
Mais je suis improvisateur, mais je ne suis pas un jazzman. Ouais. Dans le sens où je ne joue pas les standards, je ne joue pas dans les boîtes de nuit, je ne cherche pas du tout ce genre de contact avec la musique. Je cherche autre chose, plutôt... Une respiration, une approche de l'œuvre différente, quelque chose d'autre. Je cherche autre chose.
Alors le paradoxe, évidemment, peut-être, c'est que Bach, dans un certain sens, on sait, comme l'a dit Glenn Gould, qu'il y a un lien finalement assez étroit avec le swing, avec le jazz, qui est assez naturel en tout cas. Mais vous avez par la suite alors décidé finalement d'étendre l'expérience à d'autres compositeurs de qui on pourrait dire c'est moins attendu, d'aller de tirer vers le jazz la musique de Chopin, d'Eric Satie, de Tchaïkovski, de Vivaldi. C'est quand même des expériences très osées là pour le coup.
C'est-à-dire ce qui s'est produit, c'est j'ai quand même mis beaucoup de temps avant de me décider à faire autre chose. J'ai toujours pensé pendant presque 40 ans qu'il n'y avait qu'avec la musique de Bach qu'on pouvait jouer de cette manière, s'amuser, trouver des choses plus swing, voilà. Et en fait, ce qui m'a décidé à faire Vivaldi, c'est une chose très simple, c'est qu'il existe à l'heure actuelle pas loin de 450 différentes versions des 4 saisons de Vivaldi. Toutes les versions sont presque identiques, à part une qui va un peu plus vite dans le tempo, plus lentement, mais tout est pareil. Et en plus, c'est une musique que vous entendez partout, dans les ascenseurs, dans les répondeurs téléphoniques, dans les gares, partout, cette musique des 4 saisons. Ouais. Rien. Et j'ai voulu, c'était un peu un challenge, j'ai dit, je vais essayer de faire apparaître les thèmes de Vivaldi et de garder l'esprit jazzy et d'improviser. Et ça a été très difficile, parce que au début, je faisais comme avec Bach, j'écrivais quelques basses, quelque chose comme ça, mais ça marchait pas du tout avec la musique de Vivaldi. Il a fallu que je fasse des compositions personnelles que j'ai mélangées avec les thèmes de Vivaldi. Et là, d'un seul coup, ça a donné quelque chose d'absolument différent, et j'ai retrouvé Vivaldi sous un autre angle, naturellement, avec une lumière différente.
Et qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui diraient que, au fond, ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire cette façon, pour le grand public, je dirais, de faire des produits qui sont entre la musique classique et la variété.
C'est-à-dire que entre le jazz et le classique, il y a le crossover. Je suis pratiquement le père du crossover.
Ah oui, vous assumez.
J'assume complètement, dans le sens où j'ai toujours cherché à faire une musique qui soit justement pas classique et pas jazz, et qui soit à la fois classique et jazz. Je suis dans un troisième chemin au milieu, et c'est pas facile. Il y a un seul avantage à ça, c'est que je suis tout seul, parce que j'ai pas vu beaucoup d'autres musiciens qui ont. Maintenant aussi, depuis 2-3-4 ans, il y a eu pas mal de groupes polonais, des choses comme ça, qui ont fait, des Russes aussi ont dû faire une ou deux disques comme ça. Mais pendant 40 ans, je me suis promené vraiment tout seul dans mes pensées et dans ma musique.
Thank you.
un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Là, c'était le final de l'été. Donc, dans la version Jacques Lussier, toujours avec le même trio, d'ailleurs, Vincent Charbonnier à la basse et André Arpineau à la batterie. Jacques Lussier, à côté du trio jazz, revisitant les classiques, et puis à côté de, on en a parlé aussi de la musique de film, de l'accompagnement des artistes musicaux, il y a aussi le compositeur à part entière, parce qu'il vous arrive de prendre la plume pour écrire des œuvres composées dans la tradition classique, enfin à votre manière.
Tout à fait. Il y a une première chose qui est une messe que j'ai écrite, qui c'est tous les mouvements de la messe et qui a été enregistré avec un orchestre de 35 musiciens, style formation Mozart un peu, et puis avec une batterie percussion jouée par Arpineau.
C'est ça, il y a toujours quand même un lien avec le jazz, quand vous composez classique.
Avec la pulsion, avec la pulsion et avec le rythme, ça c'est pour moi vital. Et il y a surtout aussi 2 solistes, et pas des moindres, c'est James Bowman qui est l'alto ténor, qui voit le contre, et Tibor Harris, et c'est dirigé par Jean-Pierre Vallèze. J'aime beaucoup ce disque.
C'est sorti en disque il y a quelques
années.
Mais ce qui m'a frappé aussi en regardant votre revue de presse, qui est très impressionnante dans tous les pays et peut-être plus d'ailleurs à l'étranger qu'en France, c'est que vous avez des œuvres qui sont jouées régulièrement en Allemagne, un concerto pour violon par exemple qui a beaucoup de succès. Alors qu'ici, on ne le connaît pratiquement pas. Vous expliquez cette espèce de décalage entre la France et vous.
Alors là c'est, j'aimerais bien trouver une explication à ça. Il n'y en a pas vraiment. Ce que je sais, c'est qu'en France, les musiciens aiment beaucoup, par exemple, j'ai mon concerto de trompette aussi qui est joué assez souvent par Soustro. Le concerto de violon est joué souvent par Jean-Pierre Vallèze. Et à l'étranger, ils sont plus demandeurs qu'en France, si vous voulez. Aussi bien pour le trio d'ailleurs que pour ses œuvres, la messe est jouée régulièrement en Allemagne. Elle a été jouée en Angleterre, elle a été jouée même en Espagne, je crois. Elle a été jouée au Danemark. C'est une chose à monter assez difficile parce qu'il faut quand même 35 musiciens. Il y a quand même 45 minutes de musique à jouer. Et donc, je n'ai jamais su et pas vraiment compris pourquoi je suis toujours parti à l'étranger plutôt que de jouer en France. Je crois tout simplement, c'est parce qu'on ne m'a pas demandé.
Oui. C'est
les mystères de l'offre et de la demande, mais là, alors qu'à l'étranger, dès le départ de Playback, la première chose dans les 3 mois qui ont suivi la sortie du disque, un producteur allemand qui m'a offert immédiatement 45 concerts dans 45 villes en 45 jours. C'était vraiment...
Vous êtes fasciné par les virtuoses, par les pianistes notamment, Jacques Lussier ou...
C'est toujours fascinant de voir des gens qui font facilement des choses qui sont très difficiles et qui les réussissent presque parfaitement parce qu'à l'heure actuelle, les pianistes sont vraiment de très haut niveau, très haut niveau.
Parmi les musiciens que vous préférez, vous avez cité Errol Garner.
Ah oui, Errol Garner en tant que jazzman, parce que lui, alors c'est Monsieur Swing lui-même, et ça lui passe par toutes les pores de la peau, c'est le swing même.
Et c'est la formule du trio qui vous est chère, en plus.
Aussi, souvent. Mais j'aime bien parce que c'est clair, c'est pas confus, on arrive à faire un travail plus ciselé, c'est de l'orfèvrerie.
Thank you.
This Can't Be Love, c'était en 1949, Errol Garner et son trio sur un thème de Richard Rodgers. Il faut dire d'ailleurs qu'Errol Garner, lui-même Jacques Lussier, a parfois été regardé avec un peu de dédain par pas mal de personnes dans le monde du jazz. Hein.
Ils ont bien tort. Hein. Il faut bien de s'écouter et puis d'écouter Garner. C'est toujours bon.
C'est toujours bon, oui. Comme vous dites. En tout cas, votre trio, il continue à tourner aujourd'hui?
Plus que jamais. Mais on fait environ 60 concerts par an.
Avec un nouveau contrebassiste. Hein,
avec Benoît Dunoyer de Segonzac.
On va se quitter juste avec une chanson qui s'appelle « Tu te laisses aller » de Charles Aznavour.
Charles Aznavour. Je me souviens très bien quand il l'a créé à Grenoble dans un établissement de je ne sais quoi exactement. Et j'étais au piano et c'était la première fois qu'il le chantait en public avec moi.
Ben merci beaucoup Jacques Lussier d'être venu nous parler un peu de quelques aspects de ce riche
parcours. C'est un grand plaisir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et t'aliéner ma vie entière. Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau. Non, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face. Maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Tu te laisses aller, merveilleuse chanson de Charles Aznavour, choisie par Jacques Loussier, qui était mon invité sur France Musique le 23 octobre 2004. Voilà, je tenais à lui rendre hommage quelques mois après sa disparition. Et on va d'ailleurs poursuivre l'hommage avec quelques musiques qui témoignent encore de cet extraordinaire talent, de cette curiosité, de cette singularité qui était celle de Jacques Loussier. Par exemple, avec cet album enregistré en 1980, dans lequel il reprend des célèbres valses de Chopin, mais les tourne d'une façon tout à fait étrange, avec beaucoup de fausses harmonies, de choses qui sonnent bizarrement, et puis tout d'un coup on retrouve la valse, enfin c'est quelque chose d'unique, c'est Jacques Loussier, ici donc dans la valse numéro 6, opus 64. Jacques Loussier dans cette étrange déformation, vous savez, un peu comme le miroir déformant d'une valse de Chopin, revisité donc dans cet album Chopin de 1980. Et puis, alors là, le côté vraiment aussi précurseur de Jacques Loussier, voilà une petite musique qu'il avait écrite pour la campagne EDF en 1985. Figurez-vous qu'elle a été reprise quelques années plus tard par le grand rappeur américain Eminem, qui l'utilise dans des tubes et dans tous ses spectacles comme une espèce d'élément musical qui a d'ailleurs donné lieu ensuite à un procès. Ça s'est terminé par un arrangement à l'amiable, mais l'idée originale, c'était bien celle de Jacques Loussier, intitulée « Pulsion ». Voilà, vous l'avez reconnu si vous écoutez de temps en temps Eminem, comme c'est mon cas. En tout cas, c'est une musique de Jacques Loussier pour la campagne EDF en 1985. Et on va terminer cet hommage avec, bien sûr, encore Playback. Là, c'est Playback en concert aux Champs-Élysées en 1965. Un extrait de la cantate BWV 29.
La cantate BWV 29 de Jean-Sébastien Bach, revisitée lors de ce concert playback aux Champs-Élysées avec bien sûr Jacques Loussier, que je vous proposais de retrouver ce matin dans cet entretien de 2004. Et puis tiens, juste pour le plaisir, finissons avec une belle chanson d'Aragon, orchestrée là non pas par Jacques Loussier mais par un autre grand musicien, Jean-Michel Defaille. C'est la chanson d'Elsa.
Donc que tu paraisses de l'air, que te fera ta chant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. De connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence. Et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fera ta chant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
La chanson d'Elsa, extraite du merveilleux album de Léo Ferré sur les chansons d'Aragon, un disque de 1961. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec Françoise Dorin, qu'on retrouvera dans une émission que j'avais enregistrée avec elle en février 2011.
À réécouter sur francemusique.fr.